RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
On attaque la troisième heure des GG des Grandes Gueules avec Sandrine Pégan, avocate, Joël Dagosséry, coach de vie, et Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire. Troisième heure des Grandes Gueules. Tout à l'heure, on va reparler de la campagne de Robert Ménard, le maire de Béziers. On aime la messe, on aime les femmes, on aime les taureaux, on aime les flics. C'est la campagne d'affichage de Robert Ménard. Bon, est-ce qu'on l'applaudit, Robert Ménard, ou pas? C'est au 32-16 tout à l'heure que vous venez en discuter avec les GG. On reviendra aussi du côté de Strasbourg sur ces drones illégaux qui livrent la prison et du coup ça paralyse les hélicoptères de l'hôpital. Parce que les drones sont tellement petits que les hélicoptères
tellement nombreux
de l'hôpital, si vous voulez, ils doivent atterrir à côté de l'endroit de normalement où ils doivent atterrir. Du coup, quand ils ont des malades, ça décale d'une demi-heure le transport des malades parce que comme des moustiques, les drones arrivent au-dessus de la prison et balancent des colis dans la cour de la prison. C'est vrai. Je vous redonnerai les il y a Didier, il vient de prononcer un petit mot tout doucement. Ça commence par un P et un U et ça se termine par un N. Et voilà. Mais on en parlera On en parlera tout à l'heure à 11h20. En attendant, je voudrais qu'on discute cybersécurité. On discute cybersécurité avec Cento qui est avec nous, qui est expert en cybersécurité. Bonjour.
Bien le bonjour. Et joyeux anniversaire d'ailleurs.
Merci beaucoup Cento et je salue votre père qui s'appelle...
Ah ça je vais pas le dire. On peut pas le dire.
Son prénom pour le saluer puisque c'est un auditeur des GG
et on peut dire bonjour papa.
Bonjour papa de Cento, fidèle auditeur des grandes gueules. Moi je voulais voir avec vous là ce matin les Zero Bytes là les pirates ou le pirate informatique numérique dit qu'il s'est attaqué aussi à l'éducation nationale et qu'il a sorti pour 43 gigas de fichiers, des millions d'identifiants de personnel, d'élèves, de comptes académiques. On peut le croire?
Si déjà il a réussi la prouesse de pirater la DGFiP, pourquoi pas l'éducation nationale? Surtout que ça, c'est arrivé en juillet et qu'il y avait une communication de l'éducation nationale sur ce piratage-là. Et le problème, en fait, c'est que visiblement, il semblerait qu'ils aient détecté le piratage, ils aient détecté qu'il avait un accès non autorisé, mais qu'il a quand même pu continuer à garder son compte une fois détecté. Donc ça veut dire que même après avoir exfiltré les données, il était toujours présent sur le système. On rejoint ce qui s'est passé avec les impôts, en fait.
Comment est-ce que c'est possible? Comment ça se passe, alors?
Malheureusement, j'ai pas de boule de cristal, mais ce que je peux supposer, c'est qu'il y a eu un vol de compte, soit par phishing, soit par quelqu'un dont on a graissé un petit peu la patte, où on lui dit, tu me donnes ton compte, je te rémunère, et puis après, on se pose pas de questions.
Ton compte, c'est ton adresse mail, quoi, en fait.
Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, les accréditations pour accéder aux interfaces de l'éducation nationale, en tout cas. Le problème, là, c'est que, ces données, une fois dans la liberté, en plus de pouvoir cibler des personnes qui sont en difficulté, que ça soit difficulté scolaire ou même potentiellement des élèves qui peuvent être en situation de handicap, parce que c'est référencé, on a les informations sur les élèves, notamment le parcours scolaire, et les informations, on va dire, sociales, si on peut le dire ainsi. Donc en fait, le risque, c'est qu'on peut potentiellement cibler des personnes handicapées, des personnes qui ont des difficultés à, on va dire, s'intégrer dans la société. Et ça peut faire énormément de dégâts. Alors moi, j'imagine surtout tous les pédophiles qui vont se ruer là-dessus en disant « Super, on va pouvoir trouver des gamins très facilement. » Parce qu'on a les informations des parents aussi.
Comment est-ce qu'on arrive à revendre ces données sur Internet? Comment est-ce que ça se passe, quoi, en fait?
Grosso modo, pour faire très simple, il y a, on va dire, le Amazon de la cybercriminalité. On peut diffuser ces informations moyennant argent ou non. On peut le faire gratuitement aussi. Et le vrai problème, c'est qu'une fois que ces données sont payées, elles peuvent être distribuées gratuitement ou non. Ça, c'est, on va dire, à la discrétion de l'acheteur. Le vrai problème, il est là. Et le deuxième sujet qui, pour moi, est quand même assez important, on entend beaucoup de journalistes parler de dark web pour ces informations. Faut savoir qu'en fait, c'est, on va dire, une lubie des journalistes depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Parce que c'est disponible sur l'Internet que l'on connaît tous, en fait.
Oui.
On n'a pas besoin de télécharger un logiciel ou quoi que ce soit. C'est disponible à la vue de tous. Faut pas se leurrer là-dessus. Ça existe depuis très longtemps, en fait, déjà.
Mais comment, est-ce qu'on est une passoire numérique?
Oui, on est une passoire numérique, mais ça fait déjà belle lurette.
Mais pourquoi?
Pourquoi pas? Moi je le dirais comme ça, pourquoi pas. C'est un manque de moyens, c'est un manque d'intéressement aussi. Il faut savoir que la cybersécurité a toujours été mise à l'écart. C'est un budget, c'est un poids pour les sociétés.
Ça coûte très cher.
Ça coûte cher.
Extrêmement cher.
Mais est-ce que c'est pas plus intéressant de régler le problème maintenant avant d'attendre qu'il y ait une hémorragie?
Et est-ce que c'est diamétralement différent chez nos pays voisins?
Alors, on est les premiers en Europe, si je ne m'abuse, et on est le deuxième pays le plus piraté derrière les États-Unis. Alors que, il y a quand même un petit peu plus de population aux États-Unis qu'en France, ça la fout mal.
Bon, il y a l'Italie aussi qui a été piratée,
ça veut dire que quelqu'un comme Zero Bytes, il est très fort, ou ça veut dire
c'est
que
c'est très facile de venir en France.
C'est très facile.
Je pense que c'est un peu des deux. Et le constat que moi je fais, parce que aujourd'hui on parle énormément à l'ère de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, de Claude et tout ça, faut se rendre compte d'une réalité, c'est que aujourd'hui faire de l'exfiltration de données, pirater des systèmes grâce à l'IA, c'est devenu beaucoup plus simple qu'avant. On n'a pas besoin d'avoir des compétences en informatique, en cybersécurité incroyables, parce que le principe même de ces IA, c'est d'engorger un nombre incalculable d'informations, notamment en cybersécurité, et eux peuvent produire des failles que nous, on pourrait potentiellement ne pas détecter, en fait. Le risque, il est là. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas la même chose pour détecter ces failles et éviter qu'on ne les utilise avant? C'est faisable.
Et ça veut dire qu'on n'a pas les bons experts dans les ministères, alors?
Non, je pense sincèrement que c'est pas une question d'avoir les bons ou les mauvais experts, c'est qu'on ne leur donne pas assez de crédit, en fait. On ne leur donne pas assez de moyens. Et ils n'ont pas, je dirais, de priorité actuellement. On les met un petit peu à l'écart, en fait. On ne leur laisse pas le choix de faire ce qu'il devrait être fait, finalement.
Joël Dagosséry.
Tout à l'heure, vous avez dit que c'est un manque d'intérêt. Est-ce que, par exemple, lorsque l'IA est arrivée, on a entendu des prises de parole de ministres qui nous expliquaient que c'était rien du tout, que c'était juste une machine, etc. En fait, on a senti une sorte de mépris quant au rôle de l'IA et de la place qu'elle allait prendre dans les entreprises, dans notre quotidien. Donc moi, je me demande même si le personnel politique en lui-même s'intéresse réellement à ces questions de technologie et accorde du crédit à ça. Et du coup, est-ce que c'est pas ça qui fait qu'ils mettent pas les moyens dessus, c'est-à-dire il y a une sorte de méconnaissance de cette partie-là, de cette technologie-là.
C'est un tout, en fait. C'est un tout. Pour moi, le virage de l'IA, c'est un petit peu comme quand on est passé du Minitel. Moi, j'étais pas né, hein, j'ai que 22 ans, mais comme quand on est passé du Minitel, qui était une révolution à l'époque, à Internet tel que l'on le connaît aujourd'hui. C'est arrivé il y a 30 ans. Il y en a plein qui n'ont pas voulu prendre le virage en se disant que c'était qu'une passe. L'IA, on est un peu dans le même constat, en fait. Ça peut changer la vie de tous, ça peut aider au quotidien, mais ça peut aussi faire des dégâts. Moi, le parallèle que j'aime bien faire, c'est comme un couteau, en fait, que l'on a en cuisine. On peut s'en servir pour découper de la viande, découper des légumes, mais on peut aussi s'en servir si on est un peu frappadingue dans la rue, de planter quelqu'un. Le constat est le même avec l'IA, c'est que ça peut servir pour le bien commun comme pour le mal. Et c'est l'usage que l'on en fait. Ça n'est pas l'IA elle-même qui est mauvaise, c'est l'usage que l'on en fait. Donc le virage, il faut le prendre. Il faut comprendre que le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on n'est plus en capacité de rester les bras croisés, de faire la politique de l'autruche et de dire non mais il va rien se passer. Parce que la réalité, c'est que ça fait déjà des années qu'il se passe des choses et qu'on n'en parle pas. Là, ce piratage des impôts et de l'éducation nationale, c'est remuer le couteau dans la plaie et de dire, écoutez, va falloir peut-être se bouger un petit peu parce que ça fait des années que ça dure, en fait. On a eu SFR, on a eu Free, on a eu Bouygues, on a eu
France Travail,
qui est malgré tout une antenne de l'État. On a eu les
impôts. L'Office d'immigration aussi.
On se rappelait ce que ça veut dire, la NTS.
C'est l'Agence nationale des titres sécurisés. C'est ceux qui font nos passeports.
Il y a sécurisé au bout, quand même.
Et nos cartes d'identité, quoi. Donc là aussi, on se dit que c'est quand même dingue de pouvoir rentrer et de piquer autant de données, quoi.
Mais ce qui est dingue, c'est qu'il n'y ait pas de vérification qui soit mise en place. Moi, c'est ce que je déplore.
Alors justement, quelles sont vos préconisations, puisque vous êtes spécialiste et vous dites que justement il y a un manque de budget pour les personnes qui seraient capables de le faire. Mais qu'est-ce que vous préconiseriez vous alors à mettre en place? Je sais pas, une authentification plus forte.
Le truc est tout bête. Tous ici, vous êtes chroniqueurs. Quand vous voulez rentrer dans les locaux, vous avez un badge d'accès. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose pour les entreprises, un minimum importante, et pour les organismes publics d'État? Pourquoi est-ce que l'on n'a pas pareil?
Sincèrement, moi, je veux pas, mais j'imagine bien que chaque fonctionnaire a un badge pour pouvoir accéder à l'immeuble dans lequel il travaille.
Peut-être, mais pour accéder aux outils informatiques, ouais. Est-ce que c'est le cas?
Pour rentrer dans le système des impôts,
ils ont un identifiant,
ça a été le vol d'un identifiant avec une extraction massive de données.
C'est là le véritable problème, c'est qu'il suffit d'un identifiant et un mot de passe. Mais s'il suffit d'un troisième facteur, que ça soit une authentification biométrique,
une authentification plus forte.
Voilà, parce que on nous dit ça coupe tout là. Mais potentiellement, le risque zéro n'existe pas. Mais c'est l'ANSSI qui le dit, hein, qui est vraiment l'autorité qui permet de certifier que les services de l'État sont entre guillemets impénétrables. Ça n'est pas le cas en fait. Faut comprendre que l'ANSSI explique que dès lors qu'un système,
c'est la sécurité informatique, l'agence nationale.
C'est ça. Ouais. Eux, c'est vraiment, on va dire, la plus grosse antenne que l'on puisse avoir en termes de sécurité en France. Et eux, ils disent concrètement que dès lors qu'un outil informatique peut être contacté, que ça soit via Internet ou via un branchement de périphérique ou des ondes radio, il peut être piraté. Donc dès lors que l'on part de ce constat-là, il faut se rendre compte que tout système est potentiellement piratable. Ouais. Donc ce qu'il faut faire, c'est éliminer ce que l'on appelle la surface d'attaque. On élimine les points d'entrée, les points de défaillance.
Et les points d'entrée, les points de défaillance, pardon, hein, je ne veux pas monopoliser la conversation. Parce que
Vas-y.
Mais est-ce que, parce qu'on dit toujours que c'est une faille humaine, est-ce qu'on ne pourrait pas former davantage les citoyens français pour justement leur dire attention, au lieu de simplement dire soyez vigilants, les former sur le fait que si on reçoit un mail, tout de suite identifier...
Ça ne suffira pas parce que moi, ce que je fais principalement, c'est de la prévention risque numérique, mais surtout de la chasse aux escrocs. En fait, moi, je suis principalement connu pour ça. Et l'intégralité des victimes, j'ai eu un monsieur hier qui s'est fait avoir plus de 8000 euros en l'espace de quelques minutes. Et il faut savoir que ce monsieur, il n'est pas plus bête qu'un autre, mais c'est de la manipulation dont il a été victime. Et même avec de la prévention...
C'est comme un voleur à la tire qui, dans le temps,
c'est ça.
Se faisait passer pour un marchand ambulant et rentrait dans ta maison. Et puis ça. Il avait un complice qui rentrait dans la maison. C'est le même système.
Si on te forme à détecter plus facilement, les arnaques...
Ça changera perpétuellement. C'est ça qu'il faut comprendre.
Ils vont s'adapter à chaque fois.
Même si on est formé, on a toujours cette petite lumière en tête qui fait « moi, ça ne m'arrivera pas ». Et c'est systématiquement le cas. Quand j'ai des victimes d'arnaque, elles me disent, mais j'aurais pas cru me faire avoir.
C'est la crédibilité humaine, c'est le facteur humain, quoi, qui est toujours le maillon faible, quoi.
On a confiance en l'humain. Et c'est une belle chose d'avoir confiance en l'être humain.
De moins en moins.
Malheureusement. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a des enfoirés qui existent et qui profitent de ça. Donc le vrai risque, en fait, il est là, c'est le facteur humain. On dit en informatique, c'est une phrase que j'aime bien, c'est que le problème est toujours entre la chaise et le clavier. Il y a quoi entre la chaise et le clavier? Nous.
Eh oui.
C'est systématique.
L'image est belle.
L'erreur provient de l'humain. C'est pas un problème informatique.
Ouais, faille humaine.
On peut imaginer toutes les éventualités possibles, mais le risque premier, c'est l'humain. Encore et toujours. Partout, en fait.
Mais est-ce que, à votre connaissance, parce que vous dites l'erreur provient de l'humain, si on sort de l'erreur et qu'on parle vraiment de corruption de l'humain, c'est-à-dire vraiment d'aller chercher un agent de l'État qui travaille dans ces services-là, de le soudoyer puisse, voilà.
Là, c'est volontaire.
Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des actions menées par l'État, justement, pour pallier le soudoiement de ces agents, etc.
Dans votre cas, pour le coup, vu que vous aviez eu quelqu'un qui s'était immiscé dans votre vie privée auprès des impôts, j'ai regardé l'émission, donc comme ça, je suis pas trop bête. Si, il y a des actions qui sont menées. Mais le vrai problème, en fait, tel qu'il est, c'est surtout, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'investigations de menées? On avait eu le cas de quelqu'un aux impôts qui avait donné des informations sur quelqu'un qui détenait de la crypto-monnaie. Ça avait fait le buzz et puis après on n'en a plus parlé. Mais il faut comprendre que c'est un phénomène qui est entre guillemets démocratisé. Si vous allez dans une boutique de n'importe quel opérateur et que vous donnez de l'argent à quelqu'un, il peut vous ressortir les informations des abonnés.
Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a un seul service qui ne serait pas violable?
Non, tous les services le sont. Quand on part du principe que tout système informatique est pénétrable, tous les services le seront tôt ou tard. La question, c'est quand. Parce que la différence entre un système qui n'est pas protégé et un système qui est un minimum protégé, ça va être le temps passé pour récupérer les accès. Si on fait grimper cette charge de travail, il y a plus de chances que le pirate passe à autre chose. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va être mis en place parce que ça demande de l'argent? Est-ce que c'est jugé important? Je ne pense pas. Il y a une étude qui avait été menée en 2024 sur les coupes budgétaires que l'on pourrait faire pour éviter qu'on prenne trop d'argent. Eh ben, la deuxième chose qui apparaissait, c'était le numérique. Alors qu'on voit tous aujourd'hui que le risque de faire descendre les subventions du numérique, c'est en partie être assujetti à encore plus de piratage. Le risque premier, il est là. Ça ne concerne pas que l'État, ça nous concerne nous tous. On est tous concernés. Est-ce qu'on a envie d'avoir nos informations divulguées à la vue de tous? Je ne pense pas.
Bah non.
Ouais, d'où l'intérêt d'avoir des mots de passe robustes, sécurisés,
Même pas. Le principe du mot de passe sécurisé, Ça n'est que mon avis. Mais pour moi, c'était vrai il y a 5 ans, il y a 10 ans. Maintenant qu'on
on
a...
On va plus loin que ça.
Mais en fait, le problème, c'est que les serveurs, quand on se connecte et qu'on fait 3 mots de passe erronés, ça verrouille le compte en temps normal. Mmh. Donc, si on est sur une attaque qu'on appelle de force brute, où on teste toutes les combinaisons possibles, le compte est verrouillé. Mais dès lors que le mot de passe est valide, si on a été piraté, ça change rien que l'on ait un mot de passe fort ou pas. Mmh. Ce qu'il faut, c'est une troisième mesure, une protection via identification biométrique, via un code qui change toutes les 6 minutes sur le téléphone, idéalement pas par SMS, parce qu'on peut récupérer un numéro de téléphone très facilement. Mmh. Donc, il y a tout un cas à imaginer et à éviter, en fait.
Donc, alors, ce qui veut dire que là, pour l'administration des impôts, la protection des données, elle n'était pas optimale.
Non. Et
donc,
le problème,
du coup,
c'est que.
Les administrés pourront très bien se retourner contre l'État.
Ah, ben, potentiellement. Que, coup, potentiellement. Parce qu'il faut comprendre que c'est un manquement. Il y a une négligence que moi, je considère qui est extrêmement grave, c'est que l'on n'a pas fait et qu'on n'a pas disposé des mesures qui auraient dû être mises en place, qui sont recommandées par la Commission nationale informatique et liberté, qui dispose qu'on devrait mettre de la double authentification partout. Et un de nos ministres, dont j'ai oublié le nom parce que, bah, y en a tellement, il a expliqué qu'on doit mettre en place la double authentification. Ça veut dire qu'elle ne l'était pas déjà. Donc n'importe qui a un mot de passe qui a été piraté peut se connecter sur le système des impôts.
On a Thierry qui veut vous poser une question. Thierry, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour votre invité et joyeux anniversaire.
Merci Thierry. Septo vous écoute, allez-y Thierry alors.
Moi je voudrais demander à votre invité, au 1er septembre, comme vous le savez, donc dans moins de 13 jours, les professionnels vont être soumis à la facturation électronique.
Je suis concerné moi aussi et c'est un sujet qui me débecte.
Des millions de données d'entreprises avec des numéros de TVA, des coordonnées vont être balancées sur le net et transmises à des sociétés privées. Mmh. Parce que l'État s'en est déchargé. Qu'en pense votre invité?
Qu'est-ce que vous en dites alors de cette qu'on nous pousse à la facturation électronique?
Pour moi, c'est une connerie en fait.
Voilà, Thierry, vous avez la réponse.
Voilà, moi, je suis même assujetti à ça. J'ai une auto-entreprise parce que je fais malgré tout des conférences. Et il faut se rendre compte que devoir divulguer ces informations, c'est potentiellement dire quelle entreprise a qui comme client s'il y a une énième fuite de données. Les finances publiques doivent être imaginons-le, normalement impénétrable. On ne devrait pas avoir ce genre de fuite. Qu'est-ce qui se passe si on sait quelles entreprises facturent à qui? Il y a des risques d'usurpation d'identité auprès de ces sociétés. Voilà. On a des grosses entreprises. Je suis sûr que si on envoie des factures au siège des RMC en disant je dois faire facturer telle chose, il y en a tellement qui sont envoyés qui vont pas vérifier. Donc là, il y a un vrai risque auprès de ces sociétés d'exfiltration d'argent aussi, en plus des données finalement.
Un mot quand même, Thierry, vous avez eu la réponse de Santo, vous voyez, sur Zero Bytes, donc sur les fameux pirates eux-mêmes. J'imagine que pour arriver à les attraper, c'est une question de temps, quoi, en fait.
Ça dépend.
En plus, ils communiquent pas mal sur les réseaux sociaux.
C'est ça, il y a des traces. Après, j'ose espérer qu'ils soient pas plus bêtes qu'un autre.
Attends, finissez.
C'est difficile à dire, des bienfaiteurs, mais moi, ce que je constate, c'est que le petit jeune de 15 ans qui a piraté la NTS a été retrouvé, celui qui avait piraté Free a été retrouvé, celui qui avait piraté SFR de mémoire a été retrouvé aussi. Donc, à un moment donné, tout va se recoller. On va les retrouver. Mais moi, je me dis, peut-être que ces gens-là, il faudrait comprendre premièrement comment ils font pour éviter que ça ne se reproduise avant de les arrêter. Parce que
il faudrait les retourner et les faire travailler.
Je ne sais pas si on peut leur faire confiance, parce que s'ils ont fait ça une fois, qui dit qu'ils ne le referaient pas? On peut pas leur donner des accès accrédités. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que le travail qu'ils ont fait devrait être fait par l'État. Il y a ce qu'on appelle des hackers éthiques qui sont là pour justement trouver ces failles et dire comment les colmater. C'est leur travail. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que l'on écoute les personnes dont c'est le travail et qu'on leur dise, écoutez, on sait que vous êtes compétents, venez avec nous. On va pas aller voir Bébert qui aime bien la vinasse et lui demander des conseils pour une opération chirurgicale. On va pas lui demander ça. On va voir un vrai médecin, on va voir un chirurgien. Pourquoi est-ce que là, on ferait pas ça pour la sécurité de nos données?
Merci Santo, merci d'être passé par les GG, par les grandes gueules, nous aider à comprendre l'ampleur de ce phénomène. Et surtout donc aujourd'hui, quand on dit on est une passoire informatique, la réponse elle est oui, c'est clair. Merci Santo. Allez, dans un instant, les drones illégaux qui livrent la prison de Strasbourg, du coup ça fait décaler les vols des hélicoptères de l'hôpital. Ça les fait. Alors quand ils ont des malades à bord, c'est gênant parce qu'ils sont obligés de se décaler. Ça fait perdre parfois jusqu'à une demi-heure sur le temps de vie ou la santé du patient. Restez avec nous, vous pouvez réagir au 32-16, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Sur RMC,
c'est RMC Story. Vous êtes avec nous, bien sûr, au 32-16 pour discuter, pour débattre avec aujourd'hui Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, Sandrine Pégan qui est avocate. Nous sommes avec Joël Dagosséry, la coach de vie. On va reparler de ce qui s'est passé à Strasbourg, du côté de l'hôpital de Haute-Pierre. On a suspendu les vols pendant 3 semaines à cause des drones, de livraison illégale à la maison d'arrêt à proximité. En fait, que se passe-t-il ? Ce sont les vols de nuit vers l'hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg qui ont dû être suspendus parce que la maison d'arrêt est à proximité. Et la maison d'arrêt, toutes les nuits, il y a des petits drones qui viennent balancer des objets. Alors ça peut être de la drogue, ça peut être des téléphones portables, ça peut être des livraisons diverses et variées. Ça, Sandrine Pégan, elle le sait mieux que moi vu qu'elle visite les prisons. Elle doit, je pense,
Pizza Hut,
savoir tout ce qu'on peut livrer dans une prison. Sauf que ça fait perdre des minutes de prise en charge des patients. Ça peut aller aussi jusqu'à une demi-heure de décalage. Imagine aussi qu'il y a un hélico qui croise au moment de l'atterrissage juste à côté un drone, qu'ils le prennent dans les pales de l'hélicoptère. Bon, ben ça peut provoquer un crash. Parce que ce sont des mini-drones, c'est pas les drones que l'on voit, les drones de guerre, c'est vraiment des espèces de petits moustiques, si tu veux, avec une ficelle en dessous, et puis un colis, et puis, tac, c'est lâché dans la cour de la maison d'arrêt. Alors, apparemment, d'après le service police-justice de BFM TV, il y a 2 personnes qui ont été interpellées. Ils ont réussi à remonter quand même, à peut-être grâce aux signaux informatiques ou signaux électroniques, remonter jusqu'au détenteur des drones, au pilote des drones, et ils les ont gaulés. Mais enfin, quand même, ça a duré 3 semaines, cette histoire. Et souviens-toi que la semaine dernière, on avait démantelé aussi du côté du Rhône, un réseau qui faisait de la livraison aussi par drone de drogue. 1850 livraisons ils avaient fait. Donc c'est un truc de fou. Donc c'est vraiment à croire que les trafiquants aujourd'hui et leurs complices à l'extérieur arrivent à faire la loi et narguer les autorités, quoi. Didier Giraud.
Bah moi, écoute, les bras m'en tombent.
Oui.
Les bras m'en tombent quand tu dis qu'on suspend l'activité d'un hélicoptère
pour raison de sécurité
qui sauve la vie des gens. Parce qu'on n'est pas foutu d'empêcher des livraisons de hashish à la prison d'à côté. Voilà, cette inversion des valeurs. Moi, les bras m'en tombent. Voilà. On met un sniper, chaque fois qu'il y a un drone, il tire dessus. Voilà, c'est fini, quoi. Puis des drones, quand il y en aura 50, de tomber dans la cour, des drones, ça va s'arrêter.
Il faut être sûr de le toucher, parce que c'est pas très gros, le drone.
Il y a un sniper, mais
je comprends ce que tu veux dire.
Quoi.
Vraiment, il y a des brouilleurs, faut trouver.
Bah, il existe.
Mais sauf que la livraison par drone, maintenant.
La guerre a fait développer ça, des systèmes de drones avec un filet qui attrape d'autres drones.
Voilà.
Mais pourquoi je peux pas concevoir qu'on suspende l'activité d'un hélicoptère qui sauve la vie des gens pour ça. Voilà.
Joël Dagosséry.
Non, mais moi, j'imagine des familles qui vont visiter leur...
J'attends de voir au bout de combien de minutes tu vas me citer Gérald Darmanin. Parce que depuis le début de l'émission, à chaque
David
fois...
Et David
Disnard. Je n'ai pas encore pensé à lui, mais ça ne saurait tarder,
c'est
j'imagine.
C'est sa responsabilité, du coup.
J'imagine, dans la suite de mon argumentation. Non, mais j'imagine, moi, les familles qui vont visiter leurs proches et qui sont sûrement fouillées, qui passent par des portiques, des machins, etc. Un tas de sécurité, machin. Et puis, tranquille, par le ciel, t'as des livraisons de drones qui te livrent soit de la drogue, soit de la nourriture, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un problème en termes de crédibilité sur la sécurité. Tu peux pas faire surveiller des gens qui rentrent, et ce qui est normal, hein, je dis. Et en même temps, avoir le ciel ouvert, où là, tout peut rentrer par le ciel. Enfin, moi, je comprends pas comment ça peut fonctionner. En plus, moi, j'avais vu sur Internet ce petit commerce de livraison à domicile via les prisons. Tu le trouves sur Snapchat, en fait. Donc, j'imagine que la prison de Strasbourg n'est pas la seule.
Génial, vas-y, explique, tu trouves sur Snapchat. Moi, j'ai pas Snapchat.
Les commerçants, j'allais dire.
Bah, en tout cas,
ceux qui ils proposent, c'est leur service sur Snapchat. Je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est pas le dark web ou je sais pas quoi. C'est facile. Ils proposent leur service sur Snapchat, etc. Et les détenus peuvent commander via Snapchat. Je veux ça, je veux ci. Donc, quand on me dit qu'on a bloqué pendant combien de jours pour trois semaines pour retrouver qui. Non, mais en fait, on fait pas le travail en amont. C'est-à-dire que il y a un marché, il y a un vrai marché de livraison en prison. Oui. Donc, il faut faire ce travail en amont, aller identifier sur Snapchat, payer des agents de cybersécurité qu'on ne peut pas payer, et aller retrouver sur Snapchat qui propose ce genre de service et les arrêter. Enfin, moi, je comprends pas comment c'est l'hôpital avec des malades qui doit se mettre sur pause.
S'adapter, ouais.
Qui doit se mettre sur pause parce qu'en fait, il y a des drones qui livrent. Enfin, tout est à l'envers dans ce pays.
Mais le problème, on le prend pas par le bon bout, hein. Le portable est interdit en prison. On fait respecter ça. Voilà. Ouais, ça. On donne des instructions et des moyens aux matons, fouille des cellules trois fois par semaine. Et ils ont pas le temps, ils dégagent les portables des prisons. Voilà. On leur donne des instructions. S'il y a des bavures, il y a des bavures. C'est pas grave.
Bon, c'est pas grave. Bah, oui, bien sûr.
Non, mais à un moment donné. C'est écoute, pas... moi, des matons, je joue rugby avec, j'en connais plein.
Les mecs. Des gardiens de prison.
Ils disent.
De l'administration pénitentiaire.
Si un gars, on se fâche avec un gars, aujourd'hui, n'importe lequel, il jette dans un coin de porte et il porte plainte. Voilà comment ça se passe. Donc, t'imagines que ces gars-là, s'ils n'ont pas des instructions pour aller faire des fouilles un peu musclées pour récupérer des portables dans les cellules, il se passe jamais rien.
Non mais
le portable, c'est la paix sociale des prisons. Mais on assume qu'en prison, c'est pas la paix sociale.
Les détenus sont sanctionnés. Moi, il y a quelques mois, dans une prison en province, j'ai dû assister un détenu en commission de discipline parce que justement, il avait fait introduire dans la prison, par l'intermédiaire d'un drone, des sushis. Et il a pris 10 jours de mitard. Donc ils sont sanctionnés quand même. Alors après, bien sûr, l'enquête judiciaire, je ne l'ai pas suivie pour savoir qui était le commanditaire, qui était derrière tout ça.
De même pas avoir peur pour te commander des sushis, t'imagines combien il y a de portables dans chaque cellule.
Il n'y a plus rien qui m'étonne. Non mais c'est pour vous dire, donc j'ai dû quand même assister ce client.
Attends.
Tu veux savoir le procédé ?
Oui, je
ne le sais pas et je ne dévoilerai rien.
D'accord. Le type avait une envie de sushi, donc c'est un détenu.
Oui.
Il avait une envie de sushi.
Il commande.
Donc ça veut dire qu'il avait un portable, j'imagine aussi.
Oh oui, c'est.
Ou alors.
Il a 10 portables chacun dans notre prison.
C'est plus une nouveauté, ça, d'avoir des portables en prison.
Il avait un portable. Et il passe commande à un pote à l'extérieur qui lui dit : tu les veux pour quelle heure tes sushis ? Bah, il dit, je sais pas, midi 30. Et le drone vient, mais les sushis sont balancés comment ? Dans la cour, c'est ça ?
Après, il y a.
Ou sur le rebord de la fenêtre.
C'était pendant une promenade, donc du coup, oui, ça a été lâché dans la cour de promenade.
Et il a récupéré ses sushis dans la cour de la prison.
Alors, bon, sa défense à lui, que je n'ai pas soutenue, hein, parce que bon, on n'est pas forcément le porte-voix de la défense de nos clients, c'était de dire que lui, il ne savait pas que c'était pour lui. Donc il les a récupérés dans la cour de promenade. Mais bon, ça n'a pas tenu et il a pris 10 jours d'isolement. Donc là, c'est pour vous dire que aujourd'hui, c'est l'État qui décroche complètement.
On trouve un système pour faire en sorte que les brouilleurs fonctionnent.
Oui, c'est ça en fait.
Voilà. Parce que là, on en rigole, il se fait livrer des sushis, mais avec les portables, ils commanditent des meurtres aussi en prison, quoi.
Ah ben bien
donc,
sûr.
À un moment
bon,
donné, faut qu'on sorte le portable des prisons.
On a bien vu à Marseille, etc. Mais bon, ça vient perturber une mission d'intérêt vital, puisque c'est quand même on parle du milieu hospitalier. Donc oui, là, ça devient un vrai problème. Mais c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est l'État qui décroche. C'est l'ordre républicain qui est inversé là-dedans. Et c'est là où ça me gêne.
Oui, mais regarde, l'inversement tout le système qui a été démantelé dans le Rhône, 1850 livraisons par drone de colis de drogue à l'intérieur de la prison. Donc là, on est au-delà de l'anecdotique, si tu veux. Moi, ce qui est épatant aujourd'hui, c'est qu'on arrive à mettre en place de vrais réseaux entre l'extérieur et la prison. Et je mets l'affaire Mohamed Amra, l'évasion sanglante d'Incarville, de côté. Tu vois?
Mais comme tu dis,
c'est l'État qui décroche. Mais pour ceux qui nous regardent, là, qui peut-être entendent parler de l'affaire de Strasbourg avec l'hôpital qui est obligé de décaler les hélicoptères. Toi qui nous dis le détenu qui se fait livrer des sushis en prison, dis mais elle est où l'autorité?
C'est vrai que ça peut faire sourire, mais oui, c'est un vrai problème.
Qui sont en train de développer des micro-drones là, qui peuvent quasiment rentrer dans les cellules maintenant.
C'est pas qu'un problème d'autorité, c'est aussi un problème de comment on conçoit.
De volonté.
Comment on conçoit la société. C'est-à-dire que on est sur un modèle, peut-être qu'on est sur un modèle d'autorité qui est dépassé. Je veux dire, juste l'autorité fouiller les gens, supprimer les portables, etc. Alors que les gens imaginent à l'extérieur de la prison toujours des moyens supplémentaires via le numérique, via la technologie, de pénétrer soit à l'intérieur des systèmes, comme on l'a vu informatique, soit à l'intérieur des prisons. Moi, je pense qu'on est juste dépassé. On a une façon de voir l'autorité ou la surveillance qui date de la révolution industrielle, mais on en est à la révolution numérique. Et ça, on veut pas prendre ce tournant parce que ça demande de la thune.
Je peux te poser une question indiscrète.
Oui.
Est-ce que des fois,
non, là, il y a de la volonté.
Je ne suis pas certaine de pouvoir y répondre. Mais, tu peux tenter. Il y en a qui ont essayé.
Qui ne dit mot consent, mais est-ce que tu as des clients, des détenus qui te passent des coups de fil directement de la prison? Via leur portable ou qui t'envoient des messages.
Oui. Mais alors tout de suite, je leur dis, écoutez, appelez-moi de la cabine téléphonique de la prison. Parce que tu reconnais quand même tout de suite. Ou alors parfois, ils se font passer pour un membre de leur famille. Oui, alors je suis le cousin d'un tel. Alors bon, tu reconnais sa voix. Et là, tout de suite, on leur dit, écoutez, c'est un parloir sauvage. Je ne peux pas continuer la conversation. Passez par la cabine téléphonique de la prison. Mais oui, c'est une réalité.
On a Caroline qui veut nous raconter une anecdote. Elle est dans le Val d'Oise. Bonjour Caroline, bienvenue dans les GG.
Bonjour
parce que
Caroline.
Les livraisons de drones là, dans les maisons d'arrêt, vous en avez été témoin, Caroline.
Oui, plus ou moins en fait. Moi je suis dans le Val d'Oise, mais je suis propriétaire d'un appartement que je loue en Airbnb dans le 93 à Villepinte. On a une superbe terrasse en fait, un toit terrasse avec cet appartement. Et on a eu la surprise, il n'y a pas plus tard que 2 mois, de découvrir notre appartement, donc le lendemain, à la fin de la location, de découvrir dans l'appartement un drone, enfin le sac avec la télécommande, de la drogue, des téléphones, des puces prépayées, enfin bref, toute une artillerie assez
spéciale. D'accord, de trafic, ouais.
Exactement, donc on a tout de suite appelé évidemment la police qui est venue sur place et en fait ils nous ont expliqué que les délinquants avaient loué notre appartement pour se servir de notre terrasse et envoyé par drone tous ces éléments en fait à la prison de Villepinte et heureusement pour nous, on va dire, ils ont été attrapés dans la nuit. Donc en fait la police a localisé d'où venait le drone. Et ils les ont attrapés, en fait, dans l'appartement.
Vous auriez pu être complice. Ça ne s'est passé qu'une fois, Caroline.
Ah oui, elle aurait pu être complice.
Ça s'est passé qu'une fois, en tout cas, une seule fois où ils ont été pris. Parce que finalement, est-ce que ce n'est pas arrivé d'autres fois et on n'a pas été au courant? Là, c'est parce que vraiment, en découvrant l'appartement, quand la femme de ménage est arrivée, elle a découvert toutes ces choses-là dans l'appartement. Et du coup, on a tout de suite appelé la police. Heureusement, ils ont vu qu'on était de bonne volonté, qu'on n'avait pas essayé de garder quoi que ce soit et qu'on avait appelé tout de suite. Et c'est parce qu'ils ont été attrapés pendant la nuit. Sinon, on l'aurait peut-être même pas su, s'ils avaient fait le ménage correctement, qu'ils étaient partis sans rien nous dire.
Oui, parce que j'imagine les voisins, au moment, ils doivent entendre le vrombissement du drone.
Ils ont fait ça en pleine nuit.
Oui, même en pleine nuit, ça peut vous réveiller quand même.
C'est discret maintenant quand même.
Ouais, franchement, ça, les voisins, ils ont surtout entendu, parce qu'en fait, on a des marches qui donnent par l'extérieur, donc les voisins ont surtout été alertés par ça, et par les policiers qui les cherchaient.
Ah oui, d'accord.
Les policiers les cherchaient, donc c'est surtout ça qui a alerté les voisins, mais nous, on a vraiment été au courant le lendemain quand on a découvert tout ça dans l'appartement.
Heureusement que vous avez eu le très bon réflexe de faire appel à la police tout de suite, parce que vous auriez pu sinon être traduite en justice aussi pour nourrice.
Et
vous auriez pu être considérée comme nourrice.
Oh la vache.
Évidemment, ouais. Et les policiers ont ramené en fait les personnes qu'ils ont interpellées dans la nuit dans l'appartement le lendemain. Donc nous, on ne pouvait toucher à rien, évidemment. On a dû attendre que les policiers reviennent avec les personnes interpellées et qu'ils reconnaissent que toutes les affaires qui étaient dans l'appartement étaient à lui. Et une fois que ça s'était terminé, on a pu du coup faire notre ménage tranquillement dans l'appartement. Quoi.
Caroline, je vous remercie de ce témoignage et vous allez en écouter un autre, celui de Victor qui est en Meurthe-et-Moselle et qui a été volontaire en Ukraine. L'Ukraine qui est connue justement pour sa maîtrise des drones. Bonjour Victor.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut arriver à lutter efficacement contre les drones alors?
Je pense qu'on peut arriver à lutter efficacement contre les drones comme pour les Ukrainiens et même à moindre coût parce qu'au final, beaucoup de ce qui se passe en première ligne, c'est très artisanal et ça coûte pas grand-chose, ça coûte juste de l'ingéniosité et un peu de matériel. Quoi.
Mais là, ces drones qui survolent les prisons sont des drones qui sont imposants ou pas? Ou c'est ce qu'on appelle genre des drones moustiques quoi en fait?
Alors, ceux qui survolent les prisons, je sais pas. Je pense que c'est des drones qui sont pas chers, donc des drones qui sont vraiment petits et très fragiles.
Mm-hmm.
Après, je sais pas personnellement, je sais pas pour les prisons, mais ce qu'on avait en Ukraine, c'était la plupart du temps des drones qui étaient faciles à tomber. Et ouais. Ensuite, sur des drones plus gros, c'est des drones qu'on va jamais utiliser pour des opérations risquées. C'est des choses qui restent très en arrière.
Mais quand Didier disait tout à l'heure, on met un sniper, on désingue les drones, c'est possible ça ou pas?
100%, je suis complètement d'accord avec lui. D'ailleurs, moi j'étais sur la précision, c'est quelque chose que je faisais toute la journée et c'est pas foncièrement difficile à faire.
Enfin, il ne faut pas rater sa cible, parce que si derrière... Bah, vous avez...
La différence entre un qui rate sa cible et un sniper, c'est qu'il est sniper. Quoi.
Oui, d'accord.
Oui, d'accord,
mais c'est ça, la différence. Mais le drone, il bouge, si tu veux, aussi,
oui,
d'accord.
Bien sûr,
mais... Donc, faut
il
pas...
aura forcément une phase statique, le drone, au moment de larguer, au moment où il va essayer d'arriver avec précision à l'endroit où il doit aller, il va être très, très statique, et du coup, c'est ce moment-là où on pourra le faire tomber.
D'accord. Et ça peut se piloter de loin, ces petits drones qui l'ouvrent qui livrent en prison? Il faut être loin ou pas?
Ouais, ça peut être plusieurs kilomètres, de mémoire.
D'accord. Bon.
Bon, après, il y a quelque chose de tout bête aussi, hein, Victor, c'est qu'on met un filet anti-drone dans la cour de promenade, de la prison.
Je pensais que c'était déjà le cas pour les hélicoptères, du coup, je suppose.
Oui, bah d'ailleurs, ça, c'est à cause de Redouane Faïd qui s'était évadé.
Ouais, mais c'est, toutes les prisons ne sont pas équipées de ces filets anti-drone, et puis après, ça dépend de la taille du filet.
Et de la taille du drone.
Et aussi, voilà, et du colis qui tombe.
Ça va, c'est pas ce
Victor, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci, Victor, de nous avoir raconté ça. Merci bien. Et merci à Caroline aussi de son témoignage, son appartement qui servait de nourrice pour faire
j'aurais
de la livraison.
J'aurais adoré la défendre.
De la livraison dans les prisons.
J'aurais adoré la défendre si elle avait été...
Non, mais même pour se constituer partie civile, puisque du coup, forcément, elle a subi un préjudice dans son appartement, etc.
Donc, dans cette histoire, voilà, livraison de la drogue par drone à Strasbourg, les deux personnes ont été interpellées. Hein.
C'est pas la livraison de la drogue, le problème. C'est que tu suspends un service élémentaire de sécurité, quoi.
Est-ce que sont les trafiquants vraiment qui, aujourd'hui, dictent leur loi? Simplement votre impression, oui, à 96%.
T'as quand même 3,9% qui sont réfractaires. Hein,
dans un instant, Robert Ménard, avec sa nouvelle campagne à Béziers. On aime la messe, les femmes, les taureaux, les flics et vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne d'affichage à Béziers? C'est au 32-16 que ça se passe, à tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Vous êtes avec les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules avec Sandrine Pégan, Didier Giraud et Joël Dagosséry. Ensuite, vous retrouverez les débats en direct avec Estelle Midi. C'est Charles Magnin qui officie jusqu'à la fin de la semaine. Et la semaine prochaine sera le retour d'Estelle et d'Olivier Truchot aussi. Et d'autres Grandes Gueules qui ont bien raison de prendre des vacances. On va terminer là les 6-7 dernières minutes de discussion en évoquant la nouvelle campagne d'affichage du maire de Béziers, Robert Ménard. Cette campagne d'affichage, comment la trouvez-vous? Ménard, qui a trouvé le slogan qui fait mouche. On aime la messe, les femmes, les taureaux, les flics et vous. Ici, nous avons des traditions et tant pis pour les bureaucrates parisiens. Est-ce que vous êtes, elle vous gêne? Au contraire, vous dites non, il a raison, il faut affirmer son identité. En plus, à Béziers, il y avait la feria. Qu'est-ce que tu en dis, Didier?
J'adore et je dis moi aussi.
Bravo Robert.
Ménard, après... Dans la justification, je suis pas sûr que cette campagne s'adressait qu'aux bureaucrates parisiens.
On va écouter Robert Ménard.
Tout ça, et on a un paquet ici à aimer tout ça, et je vois même pas le problème que ça pose. On aime la messe, mais vous savez, quand on m'invite à la synagogue ou à la mosquée, j'y vais. On aime les femmes, Dieu merci, heureusement, on aime les taureaux. Il y a des gens qui ont le droit d'aimer la corrida et j'ai pas envie qu'ils en soient privés. À Béziers et dans le sud, on est fiers de ce qu'on pense, de ce qu'on est et des valeurs qu'on véhicule. Et je pense que ce pays, notre pays, mon pays, il crève de ça, d'un certain nombre d'hommes politiques qui ont toujours honte de ce qu'ils pensent.
Alors, honte de ce qu'ils pensent. Nous, on pense, on aime la messe, les femmes, les taureaux, les flics. Moi, c'est l'attelage, en fait, c'est l'enchaînement. Je sais pas ce que tu en penses, Sandrine.
Oh là là, j'en ai marre. Mais occupez-vous de votre parfum, de la boule, de votre glace, de votre transat à privilégier sur telle partie de votre plage plutôt que de nous saouler avec une affiche comme ça. Je veux dire, moi, ça ne me dérange absolument pas. On peut trouver ça un peu provocateur, un peu macho, un peu tout ça, mais de toute façon, je trouve que c'est le réflexe français. À partir du moment où il y a quelque chose qui nous choque, on cherche le grand principe républicain qui pourrait l'interdire. Parce que donc là, il y a eu toutes les associations en disant oui, vent debout contre la laïcité. C'est absolument pas contre la laïcité. On est là, bon voilà, ça fait partie d'une transition. Eh bien, c'est français et c'est tout. Moi, j'aurais dû d'ailleurs y participer à cette feria de Béziers, puisque quand il était venu ici pour présenter son livre, la lettre à sa fille, la lettre à Clara, justement, j'en avais parlé en off et il m'a dit oui, venez avec plaisir. Et bon, c'était le week-end dernier et j'ai pas pu y aller puisque j'étais avec les GG. Donc, j'ai privilégié les GG. Mais donc, non, ça ne me choque pas.
Qu'est-ce que tu penses de est-ce que c'est une affirmation d'identité ou pas, bah, Joël Dagosséo, il y a quelque chose qui
il a,
gêne.
Il a le chic pour faire parler de lui, Robert Ménard, il est très très fort pour ça. Moi, il n'y a rien qui me gêne, je suis comme Sandrine, même si je ne trouve aucune logique dans l'enchaînement des... je ne sais pas pourquoi...
On aime la messe.
D'accord. On aime la messe, les femmes,
on
les taureaux.
On aime la messe, on est cato. On aime les taureaux, c'est la feria. Okay. On aime les femmes, c'est là où je me dis qu'est-ce que.
Oui, c'est, en fait, c'est
qu'est-ce
ça.
Qu'est-ce que mais ça, si, ça s'adresse si, à qui ça s'adresse et qu'est-ce si. Que ça affirme.
En fait, le truc, oui.
Tu vois, affirme, et en plus, affirme, on vous colle au milieu des taureaux et de la messe, quoi, les femmes.
Voilà. Moi, je pense que c'est une sorte de campagne conservatrice.
Ah, mais le taureau, c'est une force.
Moi, j'aime la messe aussi. J'aime les femmes, Dieu merci, j'en suis une. J'aime les taureaux, mais j'aime pas qu'on les tue juste pour faire, juste pour s'amuser. Ça, c'est clair. J'aime les flics aussi. J'ai pas de problème avec eux. Donc, forcément, j'ai pas de problème avec cette affiche. Par contre, il faut reconnaître que c'est l'affirmation d'une certaine identité, d'un certain traditionnalisme ou conservatisme, en tout cas. Quand les gens disent que c'est contre la laïcité, c'est quand même une campagne publique, hein. Donc c'est pas la campagne privée.
C'est une campagne publique. Laïcité, c'est l'affirmation de la messe. Ouais, c'est ça qui est gênant.
Ils ont raison de dire que ça. En tout cas, moi, je pense que ça attaque un peu la laïcité, parce que bah oui, normalement, une campagne publique, on n'est pas censé mentionner la religion.
Qui disent la mosquée, la synagogue aussi.
Non, pas,
quoi,
non, voilà. Non. Mais moi,
alors, s'il avait mis, on aime la religion.
En fait,
tu vois ce que tu viens de dire, Joël. C'est typiquement ce qu'il a voulu dire, quoi.
Mais non, mais moi,
l'image d'une
finir.
Certaine France qui se fait cracher dessus par l'entre-soi parisien à longueur de
non,
journée,
mais
quoi.
Je dois reconnaître.
Parce qu'on aime les femmes, les taureaux, la messe et les flics.
Non, mais on peut reconnaître que les arguments avancés par la partie adverse, entre guillemets, qui dit que ça, c'est contre la laïcité. Oui, peut-être. Par contre, moi, personnellement, j'ai aucun problème avec ça.
Mais
pour
oui,
te
mais...
dire, pour te dire, je regarde, je sais pas pour ceux qui regardent la télé, enfin, en tout cas, les plateformes, on va dire. Il y a une série qui fait un carton qui s'appelle Yellowstone. Voilà, qui fait vraiment un carton.
Ah oui.
Tu connais.
Oui, j'ai regardé.
Mais vraiment,
avec Kevin Costner.
Exactement. Et il y a une autre série qui est par le même créateur d'ailleurs qui s'appelle Landman.
Oui,
et
c'est avec Billy Bob Thornton.
Exactement. Et ces deux séries, moi je les adore. Ces deux séries, en fait, elles défendent un certain monde. Donc en fait, elles luttent contre le fait qu'on veuille éteindre un certain monde avec des valeurs plutôt conservatrices, du travail, de l'économie, du travail difficile, le courage de la parole donnée, des choses comme ça. Et elles ont un succès retentissant dans une Amérique, on se rappelle quand même, qui a été très woke, comme on dit. Donc c'est pour dire
qu'il
y a toute une partie.
Trump à force qu'elle en ait marre.
Donc il y a toute une partie, de la société quand même qui a envie de ne pas perdre certaines valeurs dans lesquelles ils se reconnaissent. Et ça, il faut l'entendre. Voilà. Et je pense que ce qu'a fait Monsieur Ménard, c'est d'affirmer ça. Et moi, j'ai pas de problème avec ça, quoi.
D'accord, mais je vois pas qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire
cracher dessus à longueur de temps.
Qu'est-ce que ça veut dire? On aime les femmes.
Moi, je vais vous dire ça.
C'est ça que je ne comprends pas.
Moi, je pense que c'est une affirmation genre hétérosexuelle. Moi, je l'ai entendu comme ça.
Mais c'est provocateur.
Honnêtement, je l'ai. Ah ouais, pas que.
Tu dirais quoi là?
Aussi du religieux là-dedans.
Bah, en quoi?
Parce que femmes. Qui cache les femmes, c'est qu'il les aime pas, quoi.
Ah, dans ce sens-là.
Ah non, je croyais que tu disais religieux pour enfanter.
Mais voilà.
Moi, j'ai entendu. On est chrétien, on est hétéro, on aime.
On est viril.
Exactement. Mais moi, oui, je pense.
Regarde
ça. Hein.
Regarde la campagne qu'il y a eu contre les banquets.
Le canon français. C'était très raciste et fasciste.
Les déclarations.
Il y avait des bras levés aussi.
Les déclarations en matière de ruralité, d'agriculture, de ces temps. Tondelier, Caron, tout ce qu'il y a eu derrière la loi agricole, les exemples sont à l'appel de comment on en a marre de ce monde-là, un peu comme tu l'as décrit, un peu vieillot, un peu conservateur, mais qui dans une France qui existe encore et oui, qui est attaquée à longueur de journée, quoi. Enfin, si je reprends mon fil Facebook, je vais trouver 8 articles de gens qui attaquent ce monde-là, quoi. Hein. Et je pense que Ménard, pour l'avoir croisé quand même un petit peu ici.
D'ailleurs, il est très bien réélu à Béziers à chaque fois. Hein.
Bah, il est devenu un porte-étendard de cette France-là, quoi. Chez Ménard,
après,
le canon français,
buzz, hein.
Il est le bienvenu,
oui,
quoi. Il est le bienvenu, le canon français. Parce qu'il y a des gens qui font de la polémique sur le canon français pour faire le lien autour de la religion, autour du franchouillard, autour du racisme, autour... C'est tout ça qu'il a voulu dire aussi, quoi.
Merci Didier, merci Sandrine et Joël. À bientôt dans les grandes gueules. Demain, on sera avec Emmanuel De Villiers, Zora Bitant, Laura Varton-Martinez. Mais si vous aimez le débat, je vous le disais, ça continue en direct sur RMC et RMC Story avec Charles Magnin, C'est l'équipe d'Estelle Midi, d'Estelle Denis qui arrive maintenant.
Salut Bonjour. Alain, salut les GG. Est-ce qu'on m'entend bien dans ce micro-main? On va nous le confirmer en régie.
Tout va bien.
Tout va bien.
Il te va très bien d'ailleurs ce micro-main.
C'est adorable. Je vais peut-être le garder pendant 3 heures. C'est Alors cadeau. D'abord, le programme. Bon anniversaire Alain.
Merci.
C'est le plus important aujourd'hui, c'est l'événement. Bon, autre info importante aujourd'hui, c'est l'allocation d'entrée scolaire qui est versée aux familles. Et plusieurs villes suppriment les kits de fourniture scolaire gratuits donnés à la rentrée. Ça fait un peu doublon avec l'allocation d'entrée scolaire, disent ces maires. Faut-il en finir avec les kits offerts aux familles? Ça, on va en débattre dès midi avec vous au 32-16. On va aussi parler du hacking, hein, après le site des impôts. C'est l'éducation nationale qui serait victime. Est-ce que vous avez peur pour vos données? Est-ce que vous redoutez des arnaques? Est-ce que vous faites particulièrement attention quand vous recevez un SMS, un appel, un mail? Est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous êtes bien protégé? Venez nous le raconter au 32-16. Et puis on va parler de ces communes qui prennent des mesures pour limiter, voire interdire, les résidences secondaires. Les résidences secondaires sont-elles un fléau? Peut-être que vous nous écoutez depuis votre résidence secondaire. Vous composez le 32-16 pour vous défendre.
Attendez, ils les interdisent parce que derrière, les résidences secondaires, ça devient des Airbnb et qu'il n'y a personne qui vit
pas
à l'année.
Forcément.
Quoi,
c'est aussi pour dire que certains
les
achètent des résidences. Exactement. On a grandi à un endroit.
Tu prends la côte basque.
Exactement. On a un boulot, on a des enfants et on ne peut pas habiter là où nous avons.
Les 3 heures, là.
Là où nous avons grandi. 32-16, Didier, à partir de midi, voilà. Parce que nous aussi, on a une belle tablée. Jean-Philippe Doux, Benjamin Hamard, Karine Galli qui arrive dans un instant. Karine. Et justement, on va organiser un grand tu préfères entre Jean-Philippe Doux et Karine Galli. Ce sera chien ou chat.
Alors attention.
Je sais déjà chien. Qui Karine va être.
Chien ou chat. Alors,
j'ai un chat.
Qui s'appelle ?
Idem. Forcément, comme moi.
D'accord. Joël.
Chien, les chats c'est sournois.
C'est pervers.
Ça me crée des crises d'asthme, je supporte pas.
Et ben je rêve que quand vous sortez du plateau là, qu'il y a un pigeon qui vous pour avoir dit ça.
Didier. Ah ouais.
Si tu devais choisir.
Plus, j'ai eu un chien de travail et j'en ai plus. C'est un gros travail à dresser et c'est lourd. Ouais. Et puis il y a des chats abandonnés à la maison. Non mais ils sont bien traités. Mais j'ai cette particularité qu'il y a toujours des chats à la maison. Ça fait 30 ans que je suis dans ma ferme, mais c'est toujours des cadeaux, tu vois. On nous fait des cadeaux.
Et toi, t'es quoi alors, Alain?
Mais moi, j'ai deux chiens. J'ai un chien, Lilo, que tout le monde connaît. Et puis ma fille maintenant a un chien qui s'appelle Tiny. Et donc on a fait cohabiter les deux. Ça n'a pas toujours été simple, mais deux femelles, ça va, ça se passe bien. Allez, bonne émission avec Charles au 32-16.
T'en fous de ta vie.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.